Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Denis Strubel, qui est gérontologue, et je crois bien qu'elle est gérontologue spécialisée en neurologie. Denis Strubel a été chef de service de gérontologie à Serre-Cavalier, pôle gérontologique attaché au CHU de Nîmes. J'ai eu la grande joie de travailler avec elle à Villemain, où j'ai été interne dans ce service en gérontologie, puis praticienne. À Villemain, à l'époque, on côtoyait l'hôpital du 19e siècle. Ça a été une expérience qui m'a beaucoup apporté. Bonjour, Denis Strubel.
Bonjour, docteur Jaume.
Denis Strubel vient aujourd'hui nous entretenir d'une maladie très particulière et insidieuse, la maladie d'Alzheimer, que maintenant tout le monde connaît. Denis Strubel vient nous en parler aussi car il est vice-président de France Alzheimer Gare. Le docteur Camille Lapierre, un ami qui a préfacé un de mes romans et avec qui j'ai travaillé, en est le président. Les objectifs de l'association France Alzheimer Gare, d'après son site, sont de sensibiliser, conseiller, soutenir les proches de personnes souffrant de maladies d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Aider à l'accompagnement des personnes malades en partenariat avec les professionnels et contribuer à modifier le regard de la société sur les personnes malades pour favoriser leur inclusion. Soutenir la recherche. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous parlons toutes et tous de maladies d'Alzheimer. Tout d'abord, qui était Alois Alzheimer? C'est un psychiatre et neuropathologiste allemand. Il publia en 1907 le premier cas de la maladie qui porte son nom, chez une patiente de 51 ans, Auguste Deter. Il suivit son cas jusqu'à sa mort en 1906 et découvrit les altérations anatomiques observées sur son cerveau. Pouvez-vous nous en dire plus?
Sur la maladie?
Sur le découvreur de la maladie.
Le découvreur de la maladie. Alois Alzheimer était à la fois neurologue et neuropathologiste. Et donc son mérite, c'est d'avoir suivi cliniquement comme médecin traitant cette première patiente et ensuite d'avoir décrit pour la première fois les lésions de la maladie dans le cerveau après son décès. Et ces lésions ont été décrites, elles sont de deux types. Il y a les plaques amyloïdes qu'on appelle les plaques séniles et puis les dégénérescences neurofibrillaires qui sont dans les neurones.
Donc, c'était en Allemagne
En Allemagne, en 1906.
En 1906,
oui.
Donc c'était plus tard que la grande école de neurologie de Charcot, etc. Et je crois, d'après ce que j'ai lu, en fait, qu'il y a eu un arrangement avec la famille de la patiente. C'est Alzheimer qui a pris en charge les frais d'hospitalisation, dans la mesure où il y avait une possibilité, après son décès, d'étudier, de disséquer ça.
Je ne connais pas ce côté de l'histoire, mais le mérite d'Alzheimer, c'est d'avoir sorti cette maladie du grand ensemble, du magma des maladies neuropsychiatriques, et de l'avoir individualisée comme une maladie organique.
On va revenir
organique.
Aux démences, qu'on n'appelle plus démence, mais vous allez nous en parler. Non, mais ce que j'ai lu, moi, c'est qu'en fait, il était intéressé par son cas, mais il y avait des difficultés parce qu'il y avait une hospitalisation. Donc il a dit, écoutez, moi je prends en charge, comme faisaient beaucoup de praticiens à l'époque, l'hospitalisation, il a suivi. Il a suivi jusqu'à sa mort, il a eu l'autorisation de disséquer. C'est justement comme ça qu'il a pu découvrir cette pathologie. Alors auparavant, en médecine, on parlait de démence, qui vient du latin dementia, qui signifie folie en fait. C'est un terme général désignant un déclin des aptitudes mentales assez grave pour interférer avec la vie quotidienne. N'oublions pas qu'avant les années 1970, neurologie et psychiatrie étaient une même spécialité médicale, qu'on appelait la neuropsychiatrie. Le 30 décembre 1968, dans le cadre de la réforme des universités par Edgar Faure, le journal officiel annonce la création de deux nouveaux CES, c'est-à-dire des certificats d'études spécialisées de médecine, celui de neurologie, celui de psychiatrie. Il remplace l'ancien CES de neuropsychiatrie, instauré en 1949, suite à la création de la Sécurité sociale. Alors, on parlait de démence. Actuellement, peut-on toujours parler de démence?
Alors, le terme de démence est toujours utilisé dans la littérature médicale anglo-saxonne, mais les Français se sont singularisés pour dénoncer le côté très péjoratif de ce terme. Hein, ah oui. Dementia, comme on l'a dit, c'est sans esprit. C'est même pas la folie, c'est sans esprit. Dans les révisions des recommandations HAS, etc., la nouvelle dénomination a été introduite il y a plusieurs années. C'est déficit neurocognitif majeur.
Déficit neurocognitif majeur.
Pour l'opposer au déficit neurocognitif mineur, qui sont des troubles de la mémoire moins importants que dans la maladie d'Alzheimer, mais dont le potentiel évolutif au début n'est pas toujours clairement déterminé, puisque ça peut rester normal comme ça peut évoluer vers une maladie. Donc, la vraie dénomination, c'est déficit neurocognitif majeur.
Donc, en français, on ne parle plus de démence. Alors, moi, pour préparer l'émission...
Toute façon, dans ma pratique, j'ai été au contact de ce type de malades et des familles. Le terme de démence, sincèrement, les professionnels ne l'utilisent pas avec la personne malade ni avec la famille.
Alors moi, j'ai été surpris parce qu'en préparant l'émission, j'ai lu un peu la littérature, ce qu'on appelle la littérature scientifique. Et c'est vrai que je trouve quand même en français, le terme démence... Bon, je savais qu'on ne l'utilisait plus, quoi. Démence, on ne dit plus à quelqu'un c'est démence. C'est un peu comme hystérie.
On n'a jamais dit à un patient vous êtes dément.
Mais c'est un peu comme le terme hystérique. Hein. En psychiatrie, quand j'ai commencé, j'ai fait ma thèse en psychiatrie. Donc l'hystérie, on ne le disait jamais aux patients. Maintenant, actuellement, c'est hérétique de parler d'hystérie. Donc, en fait, expliquez-nous ce qu'est la maladie d'Alzheimer.
Alors, la maladie d'Alzheimer fait partie d'un groupe de maladies qu'on appelle les maladies neurodégénératives, qui ont en commun une dégénérescence de certaines régions cérébrales, donc de la mort de certains neurones. Bon, on sait très bien où ça se passe dans cette maladie. Ça commence dans une région qu'on appelle l'hippocampe et ça s'étend ensuite sur l'ensemble du cortex cérébral. Les lésions sont deux types, c'est ce qu'avait déjà montré Aloïse Alzheimer. D'une part, on a des dépôts de ce qu'on appelle les plaques séniles, qui sont des dépôts de substances toxiques, c'est la substance amyloïde, bêta-amyloïde, qui se passe entre les neurones dans ces régions touchées. Et ensuite, la dégénérescence neurofibrillaire est une anomalie intraneuronale dans le neurone et qui précède la mort du neurone et où il y a une autre protéine qui est déposée, qui est anormale, qui est la protéine Tau. Donc, la particularité de cette maladie, c'est qu'on a deux lésions histologiques qui s'associent, qui doivent être associées pour pouvoir faire le diagnostic et pour que les symptômes apparaissent. Et ces deux lésions, on les connaît bien maintenant, on sait en quoi elles consistent, comment elles évoluent. On ne connaît pas le mécanisme déclencheur au départ, même si on a des connaissances de ce qui va favoriser la survenue, mais pas le mécanisme.
Mais ces deux lésions histologiques, un rapport entre elles ont une continuité ou c'est dissocié?
Chacun
a une action différente.
Oui.
Donc on peut avoir une lésion individuelle et on n'a pas de maladie d'Alzheimer, on peut avoir l'autre et on n'a pas de maladie d'Alzheimer, mais quand on a les deux, on a la maladie d'Alzheimer.
A priori.
Et on n'a pas trouvé de relation biologique, histologique, biochimique entre ces deux anomalies.
Alors, elles sont liées parce qu'elles sont intimement dans le... Elles concernent le métabolisme de la cellule du neurone.
Du neurone, oui.
Mais elles n'ont pas de... L'une ne déclenche pas l'autre.
Bon, on ne sait pas d'où elles viennent, si elles ont un point de départ, si elles ont une genèse...
Alors, les plaques séniles, les dépôts amyloïdes, existent dans le vieillissement simple, normal.
Bon. Et alors, comment reconnaît-on une maladie d'Alzheimer? En fait, comment fait-on le diagnostic de maladie d'Alzheimer?
Alors, jusqu'à ce jour, mais peut-être bientôt ça va changer, on fait le diagnostic avec un ensemble de faisceaux d'arguments qui sont le mode de les symptômes qui s'installent, comment ils s'installent, quel type de symptômes. L'examen médical, clinique et surtout la partie test, bilan neuropsychologique qui est en principe fait par une neuropsychologue. Donc ça peut évoquer un diagnostic et ensuite il faut l'argumenter par une imagerie cérébrale et de plus en plus souvent par un dosage des biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien. qu'on prélève par ponction lombaire.
Donc en fait, il y a deux grands, comme en médecine, il y a deux grandes classes, enfin trois grandes classes. Il y a la clinique, il y a le contact avec le patient, etc. L'examen clinique, est-ce qu'il y a dans l'examen clinique, c'est-à-dire en dehors du contact et du côté neurologique, est-ce qu'il y a des signes cliniques on peut...
Pas au début. À la fin, il y a des signes neurologiques qui vont s'installer, qui touchent le tonus musculaire, l'équilibre, mais au début, il n'y a pas d'anomalie.
Au début, il y a pas on ne peut pas rencontrer dans la rue sans lui parler quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer et faire le diagnostic. Bon, après, dans l'examen, la relation, l'interrogatoire, la relation avec le malade, on voit qu'il se passe quelque chose, que c'est pas bien, que ça se passe pas bien. Puis l'examen clinique n'apporte rien. Et puis il y a ces tests spécifiques. Alors là, ce sont des tests spécifiques faits par des psychologues spécialisés.
Alors, les médecins des consultations mémoire font des tests dits de débrouillage et lorsqu'ils sont anormaux, demande un bilan neuropsychologique qui, lui, va prendre une heure et demie.
Voilà, et donc là, ce bilan montre s'il y a une pathologie Alzheimer ou pas.
Montrer des anomalies, va préciser les anomalies, non seulement le type d'anomalie, leur intensité, et détermine si c'est congruent avec une maladie d'Alzheimer. Mais en aucun cas, les tests ne font le diagnostic. Le diagnostic, c'est à l'heure actuelle une conjonction d'arguments cliniques, neuropsychologiques, imagerie, biologie.
Alors, au niveau de l'imagerie, vous nous avez parlé de ces plaques. Est-ce qu'on peut les voir par l'imagerie médicale ?
Alors, les plaques, elles sont microscopiques. L'examen minimal qu'il faut effectuer, c'est l'IRM. L'IRM qui va permettre notamment d'éliminer aussi d'autres lésions, une tumeur cérébrale, des lésions vasculaires. Et l'IRM peut apporter un argument direct, mais pas exclusif, pas spécifique strictement, qui est l'atrophie des hippocampes.
D'accord. Les hippocampes, une partie du cerveau, on ne va pas faire...
Oui, c'est en gros en profondeur, en dessous de l'oreille. C'est une petite structure d'un mètre cube environ et qui est précocement atrophiée dans cette maladie.
D'accord. Et après, la partie biologique, alors ?
La partie biologique, il y a une biologie sanguine.
Quand on parle de biologie en médecine, c'est les prises de sang, c'est les prises liquidiennes. Donc là, en l'occurrence, c'est une ponction...
Il y a la prise de sang quand même, parce qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas un problème thyroïdien, qu'il n'y ait pas un problème carentiel, qu'il n'y ait pas un syndrome inflammatoire, etc. Puis, dans certains cas, mais pas spécifiquement, sera effectuée une ponction lombaire.
Oui, une ponction lombaire.
Une ponction lombaire, et on a des biomarqueurs qui sont les métabolites des deux anomalies. Que j'ai signalé.
Rappelons qu'une ponction lombaire, c'est en fait prendre du liquide céphalo-rachidien. Le cerveau et la moelle épinière baignent dans un liquide qui est particulier, qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, qui est un liquide avec des cellules. Donc on ponctionne par la colonne vertébrale une partie de ce liquide et on trouve donc des marqueurs spécifiques aux lésions.
Alors il faut dédramatiser cet examen.
Parce qu'il a
mauvaise presse. C'est devenu beaucoup plus banal. Oui. Ça se fait avec une anesthésie locale. La personne rentre deux heures après chez elle. Donc c'est un examen.
Et comme je suis un vieux médecin, j'ai connu des neuropsychiatres à l'époque, qui faisaient de la neurologie et la psychiatrie, qui faisaient des ponctions lombaires au lit du malade à domicile. Donc c'était...
Ça c'est le diagnostic actuel. Alors je crois qu'il faut quand même dire que dans les années à venir...
Je vous poserai la question sur des perspectives et la recherche. Ouais. On y viendra, je l'ai prévu. Donc actuellement, examen clinique, test psychologique...
Neuropsychologique,
imagerie médicale, et puis biologie, et c'est un argument de faisceau qui fait que le médecin pose le diagnostic.
Dans certains cas, on va faire une autre imagerie complémentaire, parce que il y a la maladie d'Alzheimer, il y a aussi les maladies apparentées.
Oui.
Et dans certains cas, on va faire aussi, si on a besoin d'arguments supplémentaires, un TEP scan.
Oui.
Rappelez-nous ce que c'est. En gros, c'est une imagerie fonctionnelle du cerveau.
Voilà.
On va injecter un produit radioactif qui va se fixer spécifiquement sur certains neurones et qui va témoigner de leur activité.
Voilà, on va voir le cerveau fonctionner.
S'il
fonctionne mal d'une certaine manière, c'est un faisceau d'arguments pour la maladie d'Alzheimer. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM. Mais aussi, vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur Radio Alliance Plus. Nous recevons aujourd'hui le docteur Denis Strubel qui nous parle de la maladie d'Alzheimer. Je vous propose une pause musicale en écoutant Georges Bizet, l'Arlésienne, suite numéro 1. Ouverture Orchestre National des Pays de Loire. Thank you. Pour détecter la maladie d'Alzheimer, existe-t-il des examens complémentaires en médecine? On en a déjà vu, mais est-ce qu'il existe un examen sanguin particulier pour affiner le diagnostic?
Alors, c'est le grand espoir en matière de diagnostic, c'est de... parce que, bon, ce que j'ai expliqué pour le diagnostic n'assure pas un diagnostic à 100%, hein, il faut quand même le préciser. Donc, on a beaucoup d'espoir sur la mise en évidence des marqueurs spécifiques de la maladie dans le sang, donc, qui permettrait de faire le diagnostic avec une simple prise de sang. Alors, on y est presque, pas tout à fait, il y a encore des évaluations qui sont en cours. Je pense que dans les 3 ans à venir, on va pouvoir disposer de cette façon plus simple de faire le diagnostic.
Voilà, parce qu'en tant que patient, enfin, ou monsieur tout le monde, même en tant que médecin, on est frappé sur l'étalement du diagnostic. On commence à dire aux familles, aux patients... C'est peut-être une maladie d'Alzheimer, faut voir comment ça évolue. Alors bon, si ça évolue bien ou si c'était passager, bon, on ne revoit pas le patient. Et la famille dit, ben, ils se sont trompés, etc. Et puis, en fait, il y a une détérioration, donc le diagnostic se fait par lui-même. On voit, il dit, bon, mais là, il y a un trouble, mais... Il y a une frange, ce n'est pas un diagnostic tranché comme une fracture. Évidemment, la comparaison est très mauvaise, mais c'est difficile.
Oui,
un diagnostic,
c'est beaucoup plus difficile.
On vous a dit que c'est un faisceau d'arguments, donc ça prend du temps et ça demande une évolution.
Et j'ajouterais que du côté de la personne malade et de sa famille, on ne va pas leur donner un diagnostic trop tôt, parce que ça remue quand même, ça perturbe l'existence, la vie quotidienne de ces personnes et de leur famille. Une fois que le diagnostic, l'étiquette est mise, donc prudence pour mettre l'étiquette, il faut avoir suffisamment d'arguments.
Alors ça, on en parlera dans une émission spécifique, parce que c'est quelque chose d'important. J'ai entendu des patients me dire, on m'a étiqueté, on m'a diagnostiqué Alzheimer, et donc il y a un tournant, il y a une cassure, donc on y reviendra. Alors, après le diagnostic, les examens complémentaires, la question qui me vient à l'esprit, c'est quels sont les traitements contre la maladie d'Alzheimer, médicamenteux et non médicamenteux, et institutionnels aussi.
Alors, parlons d'abord des médicamenteux. Là, il existe depuis maintenant une vingtaine d'années des molécules qui ont été identifiées pour avoir un certain effet chez certains patients, pas chez tous, qui ralentirait l'évolution, améliorerait certains symptômes. Bon, ces médicaments ont été largement testés. Ils ne sont pas tout à fait dénués de risque, mais on les connaît bien. La particularité de la France, après les avoir acceptés dans la pharmacopée, c'est, ça remonte à 3 ans, c'est que la France les a déremboursés. Alors, ce ne sont pas des médicaments très coûteux et qui étaient déjà dans le domaine public, donc génériqués. La France est un des rares pays du monde.
Quel a été l'argument de la sécurité sociale pour dérembourser?
Pas suffisamment d'efficacité et certains risques que l'on connaît.
Et les risques sont importants
Les risques, alors il faut être prudent dans la prescription sur le plan cardiovasculaire. Parce que ce sont des médicaments qui sont, du moins, la catégorie principale, c'est des inhibiteurs d'acétylcholinestérase. Ils ont la particularité d'être un peu bradycardisants, donc ralentir un peu le cœur. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de troubles du rythme cardiaque.
Il faut le bilan cardiovasculaire avant, quoi.
Au moins un électrocardiogramme, c'est
alors,
le minimum.
Est-ce que ce sont des médicaments qui sont prescrits uniquement par les gérontologues et les neurologues, ou ils peuvent être aussi prescrits par n'importe quel médecin, y compris
alors,
médecine généraliste?
Ils sont en prescription initiale par spécialiste, neurologue, psychiatre ou gériatre. Voilà, les trois. Et ensuite, le renouvellement par le médecin traitant. Donc, ils restent utilisés, mais beaucoup moins qu'à l'époque où ils étaient génériqués. Ils existent toujours. Hein. On peut les acheter. Donc, là, concrètement, dans les consultations mémoire, on propose le traitement. Si le patient est d'accord pour payer, on propose d'essayer pendant 6 mois, 1 an. Si on voit que la maladie continue à s'aggraver de manière, je dirais, standard, c'est pas la peine de les poursuivre. Hein. Mais dans les cas où on a le sentiment, et ça peut être argumenté par les tests, que la maladie s'est stabilisée, s'est ralentie, que certains symptômes sont atténués, ça vaut la peine de continuer.
Alors, rappelons-le, parce que vous avez prononcé gérontologue. La gérontologie, vous me corrigez si je me trompe. La gérontologie, c'est l'étude de la personne âgée. Et la gériatrie, c'est la médecine de la personne âgée. Alors, depuis peu, c'est devenu une spécialité. Avant, ça ne l'était pas. Mais depuis quelques années, c'est devenu une spécialité, comme la neurologie, comme la psychiatrie. Donc, la neuropsychiatrie du début que j'ai citée, c'est devenu la neurologie, la psychiatrie, la gérontologie. Et même maintenant, il y a des pédopsychiatres, c'est-à-dire que la psychiatrie se divise en plusieurs spécialités. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives et des recherches pour la maladie d'Alzheimer qui concerne la maladie d'Alzheimer?
Vous voulez qu'on reste dans le domaine du médicament?
D'abord, on n'a pas fini le médicament.
On n'a pas fait
le non-médicament.
Alors, les approches non-médicamenteuses, ce qu'on appelle les TNM, traitements non-médicamenteux, sont beaucoup utilisés dans la maladie d'Alzheimer depuis des années et commencent à être un petit peu valorisés, recommandés dans les recommandations faites aux médecins, etc. Ceci dit, elle manque un peu de preuves scientifiques, même si on en a un petit peu. Mais les soignants qui pratiquent ces approches sont convaincus de leurs bénéfices, pas forcément sur le plan, je dirais, cognitif. On n'améliore pas vraiment les performances de la mémoire, mais par contre sur le plan du bien-être de la personne malade, de l'estime qu'elle a d'elle-même, de sa façon dont elle prend sa vie en main. Qu'elle puisse un peu faire face à la maladie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces approches non médicamenteuses? Alors, il y a des activités qui sont de l'ordre du physique, l'activité physique elle-même, la gymnastique, la danse. On sait que c'est bénéfique de manière générale pour le cerveau et dans cette maladie. Alors, il y a des approches qui sont plutôt dans le domaine du sensoriel ou sensitif, par exemple, la musicothérapie, c'est la musicothérapie, c'est un vrai métier. C'est l'approche par la musique qui apporte de la détente. Il y a d'autres approches de type sensoriel. Sensoriel également. Il y a des approches de type créativité, par la peinture, par
des ateliers créatifs
où la créativité de ces personnes s'exprime et de manière tout à fait étonnante.
Donc il y a du plaisir.
Alors la notion, c'est bien que vous disiez ce mot plaisir, parce que le mot plaisir doit être présent dans toutes ces approches, et ça fonctionnera d'autant plus que l'on apporte du plaisir.
Et alors actuellement en médecine, on parle beaucoup de la qualité de vie. Que disent les patients de ces prises en charge? Il y a l'évaluation scientifique, mais pour prendre du plaisir, l'évaluation scientifique, c'est la qualité de vie. On parle beaucoup de qualité de vie. Les patients sont contents, des retours positives.
Alors, la qualité de vie s'évalue maintenant.
Elle s'évalue
par des échelles. Alors, elles sont un peu plus difficiles. Il faut des échelles particulières pour ces personnes malades. Mais c'est là où on a des éléments positifs. C'est sur la qualité de vie et sur l'estime de soi.
Voilà, revenons alors à ma question qui était un peu précipitée sur les perspectives, les recherches pour la maladie d'Alzheimer. Vous nous avez parlé de la prise de sang, donc qui pourrait être un diagnostic biologique, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes?
Dans le domaine, tout le monde attend des progrès dans le domaine des médicaments. Cette recherche est internationale, elle est extrêmement active parce que vous imaginez l'enjeu, le laboratoire qui va trouver le médicament.
C'est un marché énorme.
Donc c'est très actif depuis des années. Et puis les progrès se partagent bien au niveau international, parce que souvent les gens pensent que ça se passe aux États-Unis. Non, c'est au niveau international. Alors on a une catégorie de médicaments qui commence à être commercialisés. Aux États-Unis, ils ont été commercialisés peut-être un peu trop tôt, c'est les anticorps monoclonaux. C'est la base de beaucoup de thérapeutiques à l'heure actuelle dans le domaine de la cancérologie. Sont des médicaments qui vont se comporter comme des anticorps pour les protéines anormales qui sont dans cette maladie.
On l'utilisait pour les virus et les bactéries, on l'utilise maintenant pour les protéines ou pour d'autres,
donc en cancérologie. Donc on a un certain nombre de molécules. Alors les premières qui ont... il y en a une qui a été commercialisée très vite aux États-Unis, mais s'est révélée quand même très dangereuse. bon, ça a été partiellement retiré. On a dans les trois années à venir, il y a des molécules, voilà, qui vont sortir, qui sont testées en début de maladie. Attention, ça
d'accord,
aussi.
Pas une fois que la maladie est installée, quoi.
Quand elle est, le diagnostic est fait, mais il ne faut pas que la maladie soit trop évoluée pour l'instant.
Alors, nous y reviendrons plus longuement dans d'autres émissions, parce qu'il y a d'autres émissions sur la maladie d'Alzheimer. Mais présentez-nous l'association dont vous êtes vice-président, en deux mots, France Alzheimer. Nous y reviendrons ultérieurement.
Alors, France Alzheimer, l'association dans le Gard, existe depuis une trentaine d'années, comme ça existe au niveau de beaucoup de départements. Et donc, chaque département a son association, mais qui est rattachée, qui c'est une fédération d'associations à l'Union France Alzheimer.
Hein. Donc c'est France.
Voilà, c'est au niveau français. Et ce qui est important de dire, c'est que toutes les actions qui se font dans ces associations sont identiques parce que tout est protocolisé de manière précise. Alors, la vocation de l'association au départ, ça a été l'aide aux aidants. Je pense que France Alzheimer a été une des premières associations.
Nous avons une émission spécifique là-dessus.
Oui, à faire de l'aide aux aidants. Et puis, dans un deuxième temps, l'association s'est aussi ouverte vers des actions spécifiques pour les personnes malades, là où il y avait des trous dans la raquette. On parlait des thérapeutiques non médicamenteuses, notamment.
Hein. Pour les promouvoir, donc, pour former des équipes, pour stimuler.
Pour en faire.
Hein. Oui, et puis pour en faire aussi.
Concrètement, pour en faire au niveau de certains malades. Nous par exemple on fait des séances d'activité physique pour des couples aidants et aidés ensemble. On cible aussi les personnes malades. Il y a des ateliers de sophrologie qui s'adressent aussi aux personnes malades. Il y a même des groupes de parole de personnes malades.
Bien sûr.
Qui sont intégrés dans cette activité, on leur propose après un programme d'éducation thérapeutique pour les malades. C'est-à-dire qu'on propose à des personnes qui sont en début de maladie, qui sont volontaires, qui veulent se prendre en main, qui peuvent parler de leur maladie, etc. On leur propose ce cycle de ces 6 séances avec des thématiques précises pour que ils vivent mieux avec la maladie.
Voilà, mais on va reparler dans une émission prochaine sur l'aide aux aidants. Ben, il me reste à bien remercier le docteur Denis Trubel pour sa présence à nos côtés et ses nombreux éclaircissements sur cette pathologie anxiogène, hein, voire effrayante, qu'est la maladie d'Alzheimer. Merci encore abondamment à vous. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Le livre de Denis Trubel, Prise en soin du patient Alzheimer en institution, édité en 2006, il y a de Geneviève Demourez, je prononce bien Demour.
Geneviève Demour.
Et Denis Trubel chez Masson. Maladie d'Alzheimer pour les nuls par Christian Dourouesne. Le guide anti-Alzheimer par Philippe Amouyel aux éditions Le Cherche Midi. Je vous rappelle les coordonnées de France Alzheimer 30 Gare et maladies apparentées. On place du Calvaire, 30 320 à Marguerite. Le téléphone est le 04 66 21 03 09 ou le 06 17 87 63 56. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus.